Il est 20h30, on est le premier mercredi du mois et ça veut dire qu'il est l'heure de parler football, histoire, culture, épopées et paillettes. C'est l'heure de Tsigalco United, la mensuelle qui fait du bien à ton football. Ce mois-ci, on s'intéresse à un des intitulés de l'émission, l'épopée. L'épopée, d'après le Larousse, c'est une suite d'actions extraordinaires, merveilleuses, étonnantes ou héroïques. Alors, je ne sais pas si on peut parler de merveilleux si on parle de sport. Quoique dans le cyclisme, il y a eu des épopées merveilleuses dans les années 90 et 2000, avec des performances étonnantes, mais ça c'est un autre débat et surtout un autre sport qui n'est pas le sujet de l'émission. En revanche, le football est un sport populaire, passionnant et universel, parce qu'il regorge d'exploits qui défient la logique, qui brisent l'attendu et mettent des étincelles dans les yeux. L'épopée, c'est donc le thème de notre émission d'aujourd'hui, et pour en parler, il nous faut un programme épique. On ira donc d'abord en Bourgogne, avec un beau focus sur l'AJ Auxerre. C'est Benoît, journaliste dans la région d'Auxerre, qui a couvert pendant une petite dizaine d'années l'actualité de l'AJA pour un quotidien régional, qui reviendra sur l'épopée auxerroise. L'AJ Auxerre, un club tout entier bâti autour de cette notion d'épopée, et peut-être que Benoît pourra nous préciser la place qu'occupent ces épopées dans l'identité du club iconais. Ensuite, on aura un parcours européen, avec le Deportivo Alavés, finaliste surprise de la Coupe de l'UEFA en 2001. Sans palmarès majeur en Espagne, le club de Vitoria-Gasteiz, capitale de la province d'Alaba, se hisse en finale d'une Coupe européenne au nez et à la barbe des géants du foot européen. En finale, les Espagnols vont livrer une partie mémorable qui va contribuer à créer la légende à la fois de cette finale perdue contre Liverpool, mais aussi de toute la saison 2000-2001 du petit club basque et de cette Coupe de l'UEFA. Enfin, nous aurons la chance d'interviewer Richard Trivino, acteur de l'épopée du FC Guignon en 2000. Petit rappel, pour la première finale de l'an 2000 en France, en Coupe de la Ligue, le club pensionnaire de Division 2, le FC Guignon, bat le PSG et s'offre la seule Coupe de la Ligue remportée par un club de Ligue 2 encore à ce jour. Pour info, Guignon est une commune de 6500 habitants qui a envoyé plus de supporters au Stade de France le 22 avril qu'il n'y a d'habitants dans la ville. Retour donc sur ce parcours hors du commun. Bonjour Benoît, on se retrouve donc dans cette émission de Tsigalco United dédiée aux épopées. Tu es journaliste, tu as couvert pour la presse quotidienne régionale pendant près d'une décennie l'actualité de l'AJ Auxerre. C'est un club que tu connais donc très bien, puisque au-delà des résultats sportifs, tu t'intéresses aussi à son histoire. C'est précisément l'histoire du club iconais qui nous intéresse aujourd'hui. Et d'abord, est-ce qu'on peut dire que, d'une manière générale, ce qui a construit l'identité du club de l'AJ Auxerre, ce sont les épopées nationales ou européennes qu'il a connues ?
Ça en fait partie, bien sûr. Les épopées, les exploits sportifs sont à la base effectivement des notoriétés, des histoires des clubs. Alors pour l'AJA, je dirais quand même il y a trois éléments. Plus généralement, le premier, je pense que beaucoup pensent à ça en premier lieu, c'est la personnalité de Giroud. Bien sûr, une histoire singulière, l'incarnation un peu de l'identité du club avec le parcours de Giroud. Donc, une longévité record en tant qu'entraîneur, un entraîneur qui a bâti un club, qui l'a fait monter des rangs amateurs jusqu'au titre de champion de France. Donc voilà, un peu une histoire rêvée. Donc ça, l'histoire de l'AJA est liée fortement à ça. Il y a aussi un deuxième aspect qui est la réputation de club formateur. L'AJA a longtemps été associée à ça, à sortir des joueurs, beaucoup de joueurs et des joueurs de qualité. Les deux plus grands qu'on peut citer, qui sont les plus célèbres, c'est Eric Cantona et Djibril Cissé. Alors on voit que c'est des joueurs qui sont, pour Eric Cantona, années 80, 90, Djibril Cissé 2000-2010. Donc ça s'est un petit peu estompé depuis, cette étiquette de formation, mais quand même ça reste assez marquant. Et puis effectivement, la troisième chose, ce sont les épopées du club, et notamment son palmarès en Coupe de France, à travers la Coupe de France. Il y a 4 titres en Coupe de France, ce qui est important au niveau du palmarès sur la scène nationale. Et puis le fait que le club ait brillé à travers cette compétition-là en particulier, c'est à noter, parce que la Coupe de France, ça parle au plus grand nombre, pas seulement aux amateurs de football. La Coupe de France, ça touche aussi le grand public. C'est la compétition qui réunit Les plus petits clubs, les amateurs avec les professionnels. Et donc, le fait de s'être construit un palmarès dans cette compétition-là fait que la GIA, effectivement, y a gagné sa notoriété. J'ai dit 4 titres et 6 finales en tout, parce qu'il y a 2 finales perdues. La première en 79, ou vraiment 1979, où le club a fait parler de lui pour la première fois, et la dernière fois en 2015, alors que le club était encore en Ligue 2. Donc c'est à noter aussi que le club est par 2 fois accédé à la finale en étant pensionnaire de deuxième division. Donc effectivement, ce sont des épopées, ça, particulièrement marquantes.
Et donc, comme ce soir, on s'intéresse aux épopées sportives, on va faire l'impasse sur toute la genèse des clubs. Et pour Auxerre, tu parlais de la Coupe, il y a quand même, et tu venais de la citer, une épopée en Coupe particulière. L'épopée, on va dire, fondatrice, c'est celle de la saison 78-79. Je crois qu'à Auxerre, on se réfère encore beaucoup à cette première épopée. Les joueurs de cette épopée sont encore régulièrement cités comme des grands joueurs de la GIA. Tu peux nous en dire plus sur cette épopée fondatrice ?
Oui. Alors localement, effectivement, c'est toujours célébré comme un moment important. Pour le 40e anniversaire de cette finale, donc en 2019, il y a une cérémonie organisée en mairie où les joueurs de l'époque ont reçu la médaille de la ville pour ce qu'ils ont fait pour la ville, parce qu'en fait, c'est le coup d'éclat, c'est la première apparition d'Auxerre et de la GIA sur le plan national. Alors, c'est indissociable, oui. À la fois Auxerre en tant que ville, parce que c'est une petite ville qui n'est pas très connue sur le plan national, une ville de 40 000 habitants qui n'est... Voilà, c'est le peu de notoriété qu'il y a, c'est plutôt le vignoble, mais c'est à côté, c'est Chablis, c'est pas Auxerre. Et puis la GIA en tant que club qui accède effectivement à cette finale de Coupe de France en étant pensionnaire de deuxième division, en n'ayant jamais encore accédé à l'élite. Donc c'est un club vraiment qui est inconnu, qui arrive de nulle part. Et à cette époque, ça fait déjà plus de 60 éditions de la Coupe de France, il n'y a que 4 clubs de deuxième division qui ont accédé à la finale. Donc c'est une rareté aussi, ça fait parler. C'est ce que je disais, c'est aussi ça entre dans toute cette tradition de la Coupe de France qui est de faire émerger le petit club, le petit fameux petit poussé qui se confronte bien sûr à des institutions bien plus établies. Et donc cette finale de Coupe de France 79 au Parc des Princes qui se joue à Paris, donc pareil, c'est la montée à la capitale d'un club provincial. C'est quelque chose. Et puis, il y a plein d'éléments. Hein. Le parcours à l'époque, la Coupe de France à partir des 16e de finale, c'est des matchs aller-retour. Donc, c'est interminable. C'est un parcours du combattant pour se qualifier. La GIA, dans son parcours, élimine notamment Strasbourg, qui est champion de France cette année-là. Donc, pas un mince exploit. Et puis, la finale, je l'ai dit, c'est à Paris, au Parc des Princes. Ça se joue sous les yeux du président Giscard d'Estaing. Le ministre des Sports, à l'époque, c'est Jean-Pierre Soisson, qui est le maire d'Auxerre. Jean-Pierre Soisson raconte que pendant cette finale, il peut pas être impartial et forcément il vibre pour l'équipe de sa ville, et que Valéry Giscard d'Estaing lui disait: Monsieur Soisson, vous êtes ici le ministre des Sports, pas le maire d'Auxerre. Et Jean-Pierre Soisson raconte que il a répondu au président que si ça avait été Chamalières en Auvergne, la ville de Giscard d'Estaing, il aurait vibré également pour l'équipe locale. Donc voilà, il y a toute cette rencontre finalement entre une ville, un club et puis la scène nationale qui s'opère lors de cette finale.
Pour mémoire, Auxerre perd cette finale de 79. Ils affrontent qui en finale ?
Ils affrontent Nantes. Oui, j'ai pas précisé l'affiche, donc c'est contre Nantes. Et ça aussi, ça participe effectivement de cette épopée. C'est qu'en finale, ils sont loin d'être ridicules. Puisqu'il y a 1-1 à l'issue du temps réglementaire, ça va en prolongation. Et c'est Nantes qui finit par l'emporter 4-1 en prolongation. La GIA s'effondre un peu en prolongation face à plus fort que lui. À Nantes, à l'époque, il y a Henri Michel, Jean-Paul Bertrand de Man, des joueurs qui ont été internationaux. Il y a Maxime Bossis, etc.
Donc, c'est le grand Nantes des années 70-80.
Voilà, effectivement. Et l'entraîneur Jean-Vincent, ancien de Reims et tout. Donc, finale déséquilibrée. Mais pareil, le petit tient la dragée haute et va jusqu'en prolongation. Pareil, la prolongation qui a disparu aujourd'hui de la Coupe de France, c'est ce qui faisait aussi le sel, le charme de cette compétition. Voilà, c'est on va plus loin que les 90 minutes, etc., etc. Donc ça participe effectivement à la légende.
Et dans cette épopée de 79, en fait, il y a une épopée dans l'épopée, parce que ce qui est un peu particulier, là, je crois que tu peux nous en parler aussi, c'est que tu parles du petit poussé, etc. Il y a tout un narratif autour de ça, et ça tombe bien parce que en 79, alors qu'Auxerre vit cette cette expo en Coupe de France, il y a un film qui est tourné, un film de Jean-Pierre Mocky.
Non, de Jean-Jacques Hano.
De Jean-Jacques Hano, excuse-moi. Et qui est tourné, et tu peux nous en parler de ce film ?
Oui, c'est le film Coup de tête, avec Patrick Devers dans le rôle principal, donc film de Jean-Jacques Hano, et le film raconte l'histoire d'un anti-héros, Patrick Devers, qui est un peu le loser, le joueur mis au placard, et finalement endosse le costume de héros lors d'un match de Coupe de France pour la petite équipe de Trinquant, alors qui est inspiré de Guingamp à l'époque. Guingamp qui est aussi un club provincial d'une campagne qui monte avec, à l'époque, Noël Legrette, qui, à la manière d'un Giroud, un peu le maquignon local, va monter jusque dans les plus hautes sphères qu'on sait, puisqu'il a été président de la Fédération française de football. Le film, c'est l'histoire d'un petit club qui fait un exploit en Coupe de France. Et pour les besoins du film, Jean-Jacques Hano a besoin d'un club support pour tourner les scènes de football. Et ça va être l'AJ Auxerre. Et à l'automne 78, une partie du film est tournée un soir de match à la Baie des Champs, et Patrick Devers est doublé par Lucien Denis, qui est un joueur de l'AJ Auxerre avec qui il partage un peu des particularités physiques, notamment cette chevelure bouclée. Et du coup, finalement, la réalité va dépasser la fiction, puisqu'à la fin de cette saison-là, donc à l'automne, ils tournent cette fiction autour d'un exploit en Coupe de France, et à la fin de la saison, ils vont effectivement réaliser un exploit en Coupe de France, l'équipe de l'AJ Auxerre. Et donc on peut difficilement dire que c'est un hasard, et Giroud notamment, lui, le dira, que le film a porté l'équipe pour la Coupe de France, et il dit même: sans coup de tête, nous ne serions pas allés jusqu'en finale. Donc difficile de savoir, mais qui ait pu avoir une influence, que les joueurs aient fini par s'identifier aussi à ça, aux héros qui puissent faire l'exploit, c'est très possible.
Excuse-moi, je parlais de Mocky, mais c'est parce qu'en fait, je repensais au film À mort l'arbitre.
Oui, voilà, il y a À mort l'arbitre, effectivement, avec Mocky, qui se ressemble un peu, qui traite un peu du côté populaire du foot, et puis des passions débordantes que ça peut provoquer.
Alors, on vient de parler de la Coupe de France, on en reparlera, mais Auxerre a aussi réussi à se forger l'image d'un club qui fait de sa présence en championnat de France de première division une épopée permanente. Alors, est-ce que c'est réellement le cas durant la décennie 80 ? Et comment se construit ce mythe du petit parmi les grands ?
Alors oui, effectivement, parce qu'on peut entendre l'épopée en termes d'un parcours, d'une aventure singulière à l'échelle d'une saison ou d'une compétition. Et puis après, si on prend du recul, si on met à distance, l'autre épopée d'Auxerre, c'est d'avoir duré dans le temps, bien sûr. 32 saisons de suite en Ligue 1, donc de 1980 à 2012. Ce qui a permis, plus de 30 saisons de suite en Ligue 1, ça a permis directement à la GIA de s'installer dans le top 20 des clubs qui ont le plus joué dans l'élite du football français. Donc c'est se faire une place dans le paysage footballistique français en émergeant, en sortant de nulle part, au milieu de clubs bien plus implantés historiquement. Et puis, c'est effectivement avoir des résultats, finalement, qui ne deviennent plus anormaux. Alors, il y a toujours, effectivement, pour la GIA, ce côté de célébrer les performances comme des exploits permanents, parce que c'est une petite ville, parce que c'est un club parti de rien. Mais effectivement, en fait, la GIA est devenue un club qui compte, et c'est pas le fruit du hasard. Le sport, justement, le sport fait en sorte que les choses n'arrivent pas par hasard. Notamment via la formule d'un championnat. Le championnat, c'est la régularité, c'est classer les meilleures équipes au long de confrontations tout au long d'une saison, pour qu'en fait, effectivement, les résultats ne soient plus le fruit du hasard, mais du mérite sportif. Et au-delà des quatre Coupes de France conquises par la GIA, donc en 94, 96, 2003 et 2005, il y a eu un titre de champion de France de première division, en 1996. Et donc, quand vous êtes champion, après avoir pendant plusieurs saisons été sur le podium et bien classé, effectivement, ce n'est plus le fruit du hasard, mais l'illustration d'un système qui fonctionnait au niveau de l'organisation du club, au niveau du savoir-faire, des compétences. Voilà, c'était mérité pour la GIA de figurer à ce niveau-là.
Au final, Benoît, Auxerre finit par, tu viens de le dire, hein, finit par s'imposer comme une valeur sûre du foot français. Et en 96, c'est la consécration avec un doublé Coupe Championnat. Une performance remarquable avec au passage des matchs européens à la clé. Et sur plusieurs saisons, il y a eu des participations européennes de la GIA Auxerre. Et donc, est-ce qu'en Europe aussi, la GIA a vécu quelques belles épopées?
Alors oui, la particularité du coup après, c'est effectivement de se mesurer carrément, après déjà, voilà, de se mesurer à l'échelle nationale pour Auxerre, c'est quelque chose. Et le faire au niveau européen, c'est encore plus marquant. Alors les premiers matchs européens sont en 1984. Alors c'est une aventure pour Auxerre de se mesurer au Sporting Portugal de Lisbonne, des clubs de capitale européenne. Et puis bien sûr, il y a des parcours qui vont faire parler avec une demi-finale de Coupe de l'UEFA, donc la deuxième Coupe d'Europe dans l'échelle des Coupes d'Europe, demi-finale contre Dortmund en 93, perdu au tir au but. Donc avec un scénario pareil, voilà, quand on va jusqu'au tir au but, c'est un concentré d'émotions et puis ce sentiment de ne pas être passé loin finalement. Et la GIA va échouer donc d'un rien à accéder à une finale européenne. Et la GIA va retrouver Dortmund aussi. Ça aussi, le fait d'avoir des adversaires qu'on retrouve régulièrement, ça va participer à construire la légende. Retrouve Dortmund en quart de finale, cette fois de la Ligue des Champions, donc la plus grande Coupe d'Europe en 97. Alors, c'est le match avec le fameux retourné acrobatique de Lilian Hassan qui va être refusé pour jeu dangereux, pied haut. Et pareil, ça va créer un sentiment d'injustice qui va être fédérateur. Pareil, c'est le côté, on a été floué. Et pareil, quand c'est des matchs comme ça, de quart de finale de Ligue des Champions, c'est la France entière qui est derrière le Auxerre, qui est derrière le club français. Ça touche plus seulement le public purement auxerrois. Donc, c'est un club français qui s'est fait flouer. Donc, ça aussi, ça participe à développer la popularité de la GIA. Et puis, je soulignerai une autre aventure européenne. C'est la dernière, quand le club a participé à la Ligue des Champions en 2010-2011, avec la particularité d'avoir... la GIA se fait éliminer en phase de poule, donc là, ce n'est pas le parcours qui est à noter, mais c'est le fait de revenir sur la scène européenne et de tomber dans un groupe où Auxerre va affronter le Real Madrid, qui est le club le plus titré dans la compétition, l'AC Milan et l'Ajax Amsterdam, qui sont deux des clubs aussi les plus titrés dans la compétition. Donc c'est pareil, c'est ce côté... Nous sommes Auxerre qui n'avons pas de palmarès européen, mais nous mesurons à ce qui se fait de mieux en termes de palmarès sur l'échelle européenne. Donc c'est encore un dernier parcours qui est à souligner.
Tu parlais de l'Ajax Amsterdam. Il me semble qu'il y a dans les épopées auxerroises en Coupe d'Europe, il y a une victoire, il me semble, à la Baie des Champs d'Auxerre contre l'Ajax.
Il y a deux fois, effectivement, je disais Dortmund, mais l'Ajax a été croisé aussi dans plusieurs parcours européens, l'Ajax Amsterdam. Et ça, c'était le grand Ajax aussi du début des années 90. Donc, effectivement, ça fait partie des plus grands matchs qui se sont joués à la Baie des Champs. Dans la mémoire des suiveurs, moi j'étais pas encore là à l'époque, mais l'Ajax à la Baie des Champs, c'était quelque chose.
Je reviens au doublé de 96, c'est donc une performance double, à la fois sur la durée d'un championnat et sur la capacité à aller au bout d'une coupe à élimination directe. Donc si on parle d'épopée, c'est bien que la GIA Auxerre a construit un narratif autour de tout ça, et avec la complicité de Giroud peut-être, et on a tous peut-être aussi en tête les déclarations à chaque fois de pré-saison de Giroud sur les objectifs à atteindre.
Bien sûr, l'objectif c'est le maintien, hein. C'est le proverbe de Giroud, qui pour lui-même cultive une image un peu voilà, du paysan qui a un savoir uniquement empirique, qui a tout construit de lui-même avec du bon sens, etc. Et qui va effectivement cultiver aussi cette image-là pour son club. Voilà, un club qui a peu de moyens, où c'est la débrouille, où l'objectif c'est toujours le maintien, on n'est pas sûr d'être encore là l'année suivante. Alors ça s'explique bien sûr par le parcours de la GIA. Lui, Giroud a commencé à entraîner la GIA en division d'honneur. Il l'a fait accéder au CFA. À l'époque, c'était pour lui le plus grand exploit, le plus beau jour de sa vie, parce qu'à l'échelle du département seulement, des clubs comme Sens ou Avallon avaient joué en CFA et pas au CER. Donc voilà, vous voyez, ça partait de la petite fierté locale de faire exister Auxerre comme un bon club de football, à l'emmener jusqu'au niveau national. Et donc, il y a toujours cette humilité de dire, déjà faire une année en plus en Ligue 1, en D1, c'est le premier objectif. Mais évidemment, c'est une manière aussi d'amplifier un petit peu toujours les exploits. Et de fait, en fait, la GIA ne jouait pas le maintien. Ces saisons-là, la GIA était devenue un club redoutable du haut de tableau, avec des joueurs, avec un effectif de qualité, des joueurs internationaux en équipe de France. Donc, effectivement, y a, après, le mythe a un petit peu dépassé la réalité, parce que la GIA sportivement était bien plus grande que ce qu'est, par contre, ce qui est indéniable aussi, au-delà de l'historique du club qui vient de nulle part, il y a aussi le fait d'être le club d'une petite ville de 40 000 habitants d'un département rural. Et ça, par contre, c'est indéniable. Le fait que le bassin économique, le bassin de population d'Auxerre soit plus réduit que ceux de grandes métropoles françaises, ça, c'est indéniable.
Alors, merci Benoît pour cette séquence auxerroise. Avant de passer à la suite, peut-être revenir sur une actualité plus récente. Le 6 décembre 2024, contre le PSG, le gardien auxerrois Donovan Léon a sorti un match que la presse sportive a unanimement salué. Et on a senti un vrai engouement durant quelques jours autour de ce gardien de but. Est-ce que ce type de performance, à notre époque, contribue à écrire quelques pages d'une épopée sportive ?
Effectivement, je pense que ça rentre dans toute l'histoire, ça perpétue l'histoire qu'on vient de décrire et de raconter, parce que c'est pas un hasard. Le match dont tu parles, c'est Auxerre face à Paris. Donc voilà, toujours la petite ville face à la capitale, le plus gros budget face à un club promu qui revient seulement de Ligue 2. Donc qui vient d'accéder à la Ligue 1 et qui, dans son stade de la Baie des Champs bouillant, où le public l'encourage, et ben parvient à tenir en échec le champion de France 0-0 avec un gardien en plus héroïque. Et pour la petite histoire, faut rappeler que ça fait aussi écho à cette finale de Coupe de France 2015 où la GIA, alors en Ligue 2, était parvenue à retourner du coup en finale de Coupe de France face au PSG, et pareil, avait opposé une résistance héroïque et avec une défaite seulement 1-0. Et c'était déjà à l'époque le gardien Donovan Léon qui avait multiplié les arrêts gardiens formés au club. Pareil, l'importance des joueurs issus du CRU formés au club. Donc effectivement, ce genre d'épopée, on voit bien pour quelles raisons elles sont mises en avant. Et le club continue effectivement à cultiver cette tradition pour signaler simplement la campagne d'abonnement et de communication du club envers ses supporters pour les réunir, pour les inciter à s'abonner, à souder. C'est irréductible au Serrois. Donc on voit bien, ça emprunte à l'image d'Astérix.
Le village qui résiste.
Voilà, l'irréductible village gaulois qui résiste. Et aujourd'hui, le club met ça en avant. Le fait que ça soit toujours le club d'une petite ville, d'un petit bassin économique qui soit à la table des grands, bien que, il faut quand même souligner aussi la réalité, le club appartient aujourd'hui à un homme d'affaires, à un entrepreneur chinois. Donc ça illustre toute la modernité du football. Les clubs de Ligue 1 ont ouvert leurs capitaux à des capitaux étrangers. Et même dans une petite ville comme Auxerre, le club finalement appartient à une société étrangère, et donc en l'occurrence chinoise, et peut compter d'ailleurs sur des fonds de la part de ce milliardaire chinois qui a une société d'emballage alimentaire. Donc à la fois c'est vrai, la GIA reste un des plus petit budget de Ligue 1, mais à la fois le paysage aussi a changé de sorte que on n'est plus non plus dans le contexte de la première époque entre guillemets de l'AGA où, pour revenir, c'était des financements locaux avec par exemple Gérard Bourgoin à l'époque c'était la société locale, l'entrepreneur, l'industriel local de poulet, voyez, et aujourd'hui c'est un industriel chinois qui, donc on voit bien aussi que l'histoire de la GIA suit quand même l'évolution du football français plus largement et du football moderne.
Ben merci beaucoup Benoît pour toutes ces informations sur l'épopée de la GIA Auxerre. Pour poursuivre cette émission, on a une interview avec un gardien de but, Richard Trivido, ancien gardien de but du FC Guignon. Avec lui, on va revenir sur l'épopée du FC Guignon, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2000. Et Richard Trivido, il a été... non seulement le gardien de but, mais un acteur décisif dans ce parcours. Et puis enfin, on ira en Espagne, au Pays Basque espagnol, pour parler du Deportivo Alavés, auteur d'une belle épopée européenne. On en parle plus tard dans l'émission. I strike men quicker than lightning. You seen what happened in my last fight, friend? I did. L's a clever threat, a lyricist who never sweat. Comparing yourself to me is like a Benz to a Chevrolet. And clown rappers, I'm bound to slay. I'm saying hi to all the cuties from around the way. Yeah, cause I got all of them strong, Jack. My girls are like boomerangs, no matter how far I throw them, they come back. I'm coming straight out the NYC. I'm down with digging in the crates and I'm MVP. If rap was a game, I'll be MVP. Once again, the man's back with a dance track. So here's your chance, Jack, to get loose and let your hands clap. I got juice like Goku, mad crews I broke through. Brothers be mad cause I hit more chicks than they spoke to. And every time I'm jammed, I always find a loophole. I got a crime record longer than my new bow. And my raps are unbelievable, like aliens and flying saucers. No more iron horses cause I'm buying Porsches. Coming straight out the NYC. Peace to the kid Capri, I'm MVP. If rap was a game, I'll be MVP. I get fools done, got 10 fingers but only use one. I run up like Machine Gun Kelly with a black skelly. Put one in your belly, leave you smelly, then take your pelly pelly. I'm the neighborhood Lambo, Punani Vampa. Mess around, you find my silk boxes in your mommy's hamper. And nowadays girls want you for your money. I'm like, have, I got nothing but love for you, honey. And since I'm looking slick and my pockets are thick, I need surgery to get chicks removed from my chill. I'm coming straight out the NYC. Raps by J.O.B. and I'm MVP. If rap was a game, I'll be MVP.
The most valuable poet on the MIC.
Yo, if rap was a game, I'll be MVP.
The most valuable poet on the MIC.
If rap was a game, I'll be MVP.
The most valuable poet on the MIC.
Yo, if rap was a game, I'll be MVP.
The most valuable poet on the MIC.
Tu écoutes toujours Tsigalco United sur le 99.5, la mensuelle de football, d'histoire, de culture, d'épopées et de paillettes. Nous sommes toujours en compagnie de Benoît, qui a longtemps été journaliste dans la presse quotidienne régionale et qui est un spécialiste, il a suivi pendant près d'une décennie l'actualité de la GIA Auxerre. On parle des épopées ce soir et pour poursuivre, On va filer de l'autre côté des Pyrénées, direction le Pays Basque espagnol et sa capitale, Vitoria-Gasteiz. Alors on va déjà resituer géographiquement les choses. Vitoria-Gasteiz, c'est une ville de 250 000 habitants et c'est la capitale de la communauté autonome du Pays Basque et c'est également la capitale de la province d'Alaba, d'où le nom du club de foot local, le Deportivo Alaves. Alors le Pays Basque espagnol est une immense terre de football. En Espagne, l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad de San Sebastián sont des ogres en termes de palmarès et donc aussi en termes de soutien populaire. L'Athletic Bilbao et la Real Sociedad ont remporté championnat et Coupe d'Espagne. Dans ce contexte, il est donc difficile d'imaginer qu'un troisième larron vienne bousculer l'ordre établi. Pourtant, à la fin des années 90, le Deportivo Alaves s'installe durablement en deuxième division, la Segunda, puis décroche en 1998 l'accession en Liga. Le club avait déjà joué quelques saisons en Liga dans les années 30, puis 50, sans obtenir de grands résultats. Le club est entraîné par José Manuel Esnal Pardo, dit Mané, un entraîneur d'une petite cinquantaine d'années, moustachu, qui a occupé des bancs de touche dans des clubs de Segunda, avec quelques succès, mais qui redécouvre la Liga sur le banc d'Alaves. Le club, qui joue en bleu et blanc, tiens, Benoît, c'est presque comme la GOCR, dispose d'un petit stade à l'anglaise, construit en 1924. C'est un des plus vieux stades en Espagne, le Mendizorroza, qu'on agrandit pour l'occasion. Le club ne dispose pas d'un budget à la hauteur des puissants clubs espagnols qui vivent dans l'opulence à l'orée des années 2000. On est très très loin des budgets de l'Atlético Madrid, du Real, du Barça ou même du Real Betis. Alaves recrute le solide milieu de terrain argentin Hermes Decio, passé par la Segunda espagnole à Salamanque, un joueur non retenu à Bilbao, l'arrière Ibon Begoña, ou des joueurs revanchards venus de Segunda comme les défenseurs Oscar Telles ou Antonio Carmona. Après une première saison à jouer le maintien, Alaves surprend lors de la saison 1999-2000 et obtient la sixième place d'une des ligas les plus incroyables de l'histoire, puisqu'elle verra le Deportivo La Corogne remporter le titre et l'Atlético Madrid, le FC Séville et le Real Betis descendre en Segunda. Le club d'Alaves a trouvé la bonne formule en mêlant donc de solides joueurs locaux passés par des clubs de Segunda avec quelques joueurs argentins désireux de se faire un nom en Europe, comme le gardien Martin Herrera ou le très bon milieu défensif argentin Martin Astudillo, ainsi que des joueurs talentueux mais remplaçants dans leur précédent club. Et c'est le cas par exemple de Jordi Cruyff, fils de Johan et qui ne jouait pas beaucoup à Manchester United. Donc c'est avec cette ossature que les joueurs de la province d'Alaba attaquent leur épopée européenne en 2000. Et il faut rappeler que la Coupe UEFA n'est pas la Coupe européenne préférée des clubs espagnols. En 2000, la Coupe de l'UEFA, qui est donc une coupe à élimination directe, pure coupe, en 2000, eh bien, seul le Real Madrid a inscrit son nom au palmarès en 1985 et 86. L'Espagnol de Barcelone a perdu en finale l'édition de 88 quand Bilbao perdait la finale de 77. Donc l'Espagne se rattrapera plus tard avec le FC Séville, mais en 2000, la Coupe de l'UEFA, c'est surtout l'affaire des clubs italiens, allemands et anglais. L'aventure du Deportivo Alaves, elle démarre timidement par un nul 0-0 au Mendizorroza le 14 septembre 2000. On commence tôt la compétition européenne contre les Turcs de Gaziantepspor. Le 28 septembre, à Gaziantep, Alaves s'impose 4-3 au terme d'un match à rebondissement qui verra Alaves revenir deux fois au score pour finalement se sortir du piège de cette accrocheuse équipe turque. Après la Turquie, la Norvège. D'un bout à l'autre de l'Europe, le Deportivo Alaves voyage. Le 28 octobre, les Basques se rendent à Lillestrøm, dans la grande banlieue d'Oslo, et gagne 3-1 avec un but du milieu de terrain du défenseur roumain Cosmin Contra et un but du défenseur Begonia dès la deuxième minute du match. Match retour le 9 novembre à Vitoria et match disputé 2-2. Le Brésilien Magno marque dès la première minute du match, encore mieux que Begonia au match aller. Alaves file désormais vers les 16e de finale. Les Basques restent abonnés au foot norvégien et tirent le gros morceau du foot scandinave d'alors, Rosenborg, le club de Trondheim. Alors si on se replace dans le contexte de 2000, Rosenborg est un bien plus gros morceau que le Deportivo Alaves. Le club norvégien est un habitué de la Ligue des Champions, dispose de très nombreux internationaux et a une réputation solide, accrocheuse. Le match aller est joué le 23 novembre et comme prévu, le match est accroché Alavés concède le nul 1-1 dans son stade du Mendizorroza. L'attaquant international norvégien Frode Johnsen ayant répondu au buteur maison Javi Moreno. Le match retour à Trondheim a lieu le 7 décembre 2000 et contre toute attente, Alavés se surpasse et surclasse son adversaire. Le Croate Vuko et Javi Moreno permettent aux Basques de l'emporter 3-1 en Norvège et ainsi d'offrir le ticket des huitièmes au club Bianchi Azules qui commence à entrevoir la perspective d'un joli parcours européen pour sa première à ce niveau. Arrivent donc les huitièmes de finale et un morceau de choix pour le Deportivo Alavés, l'Inter de Milan. Alors l'Inter de Milan en 2000-2001, c'est un très très gros morceau, du moins sur le papier. Sur le terrain, les interistes vivent une saison compliquée avec un changement d'entraîneur à l'automne puisque Marco Tardelli succède à Marcelo Lippi. Côté joueur, beaucoup d'arrivées et de départs, des noms ronflants évidemment, mais une mayonnaise qui a du mal à prendre. Toujours est-il que les Vieri, Recoba, Zanetti, Sidorf et Dalmat débarquent le 15 février 2001 à Vitoria pour affronter Alavés. On est le lendemain de la Saint-Valentin et ça tombe bien, Alavés écrit sa légende en rose avec un maillot spécial arboré durant toute cette campagne européenne. Comme d'habitude, c'est Javi Moreno, le buteur maison, qui ouvre le score sur corner. Recoba, en grande forme ce soir-là, permet à l'Inter de recoller, puis de mener au score 2-1. Christian Vieri se joue même de la défense et du gardien pour marquer le but du 3-1. On croit alors les Basques sonner, mais en 3 minutes, Oscar Téliès sur coup franc, puis le jeune attaquant uruguayen Iban Alonso permettent à Alavés d'arracher un match nul 3 partout. Le 22 février, match retour à San Siro, et cette fois les Bianchi Azules, toujours en rose, s'imposent 2-0 façon taille patron, avec des buts de Jordi Cruyff et Tomic, dans un contexte houleux puisque les supporters interistes, dégoûtés, feront interrompre le match après des jets de projectiles. En quart de finale, Alavés est opposé à une autre équipe surprise de cette compétition, le Rayo Vallecano. Sorte d'ovni du foot espagnol de par sa gestion quasi familiale, club de quartier de Madrid, dont le stade est enclavé au sein d'un quartier populaire et avec des supporters bruyants se revendiquant clairement de l'antifascisme. Le Rayo Vallecano a éliminé au tour précédent les Girondins de Bordeaux. Pour ce match 100% espagnol, Alavés s'impose nettement 3-0 à domicile, puis s'incline 1-2 au retour à Vallecas. Mais ce score permet aux Basques de voir les demi-finales sans encombre. On est alors dans une période où ni l'Athletic Bilbao ni la Real Sociedad ne disputent de Coupe européenne et où leurs résultats en championnat sont relativement moyens. Alors la performance d'Alavés attire observateurs et curieux, mais aussi les amoureux du foot du Pays Basque qui trouvent enfin une équipe en qui croire pour porter haut les couleurs de leur région. En demi-finale, Alavés est opposé aux Allemands de Kaiserslautern, tandis que dans l'autre partie du tableau, Liverpool affronte le FC Barcelone. Là aussi, on refait le point. À la fin des années 90 et au début des années 2000, le FC Kaiserslautern est une place forte du foot allemand. La ville de 100 000 habitants peut se targuer d'être une des plus petites villes d'Allemagne à avoir un club en Bundesliga. Un club redoutable puisque les Rouges de Kaiserslautern remportent le championnat d'Allemagne en 98 et ils avaient été champions des deux Allemandes l'année précédente. Là aussi, belle épopée. Et une Coupe d'Allemagne remportée en 1996. Dans leur rang, le champion du monde français Youri Djorkaeff, les internationaux allemands Barrio Bassler et Miroslav Klose ou le défenseur égyptien Hani Ramzi. La demi-finale aller est jouée le 5 avril 2001 à Vitoria. Le vieux stade Mendizorroza voit les joueurs d'Alavés vivre leur plus belle soirée européenne à domicile. Ils corrigent Kaiserslautern, victoire 5-1. Une avalanche de buts qui ne s'arrête pas là, puisqu'au match retour, Alavés poursuit la découpe en pièces des Rouges de Kaiserslautern en s'imposant 4-1 avec des buts de Iban Alonso et Jurica Vuko, le numéro 10 croate très en vue d'Alavés. L'incroyable exploit d'Alavés est donc là, se hisser en finale de la Coupe UEFA pour sa première participation et alors même que le club n'a pas de référence internationale, à peine au niveau national, où il n'a pas de palmarès particulier. En finale, le rêve d'Alavés se poursuit. Les Bianchi Azules troquent leur tunique rose pour un maillot façon Boca Junior, bleu à bande horizontale jaune du plus bel effet. La finale se déroule le 16 mai 2001 à Dortmund. Liverpool fait son retour au plus haut niveau européen et Alavés arrive sans complexe. Toutefois, douche froide, après 20 minutes de jeu, Liverpool mène 2-0 avec des buts de Marcus Babbel et de Steven Gerrard. On se dit que la soirée peut virer à la démonstration, mais Iván Alonso, encore lui, de la tête, comme toujours, réduit la marque 2-1 juste avant la demi-heure de jeu. Le vétéran Gary McAllister porte le score à 3-1 pour les Reds sur penalty à la 40e minute. Dès la reprise de la deuxième mi-temps, les Basques sont déchaînés. L'intenable Cosmin Contra, l'arrière-droit roumain, est intenable sur son côté et il centre pour la tête de Ravi Moreno qui réduit la marque 3-2. Puis le même Moreno sur coup franc égalise 3-3. Et si l'épopée d'Alavés se poursuivait au bout de la nuit ? Robbie Fowler, l'attaquant rock'n'roll des Reds, fait repasser Liverpool devant 4-3. À 2 minutes de la fin du match, sur corner, la tête rageuse de Jordi Cruyff envoie tout le monde aux prolongations. 4 partout, scénario incroyable où Alavés ne lâche rien et veut croire jusqu'au bout à son improbable destin européen. Malheureusement, pas d'épopée sans dramaturgie. Réduit à 9 après les expulsions de Magno et de Carmona, Alavés concède un coup franc que Liverpool exploite et le malheureux défenseur espagnol Delphi Gelli voit sa tête tromper son propre gardien. But en or contre son camp et victoire des Reds de Liverpool. Victoire 5-4 de Liverpool, défaite d'Alavés mais victoire morale de tout le monde. Le spectacle offert ce soir-là a marqué les esprits et a fait connaître à l'Europe et même à une partie de l'Espagne, enfermée dans ses clivages de passion supportrice, l'existence d'un club au Pays Basque qui a cru en son destin européen. Cette saison-là, Alavés terminera la 10e place de la Liga. La notoriété soudaine acquise durant cette saison 2000-2001 lui permet de remplir un peu les caisses, moderniser le stade et finir 7e à l'issue de la saison suivante. Malheureusement, le Deportivo Alavés fut relégué en Segunda à l'issue de la saison 2005-2006 et a disparu des radars durant des années. Il fallut attendre 2016 pour revoir les Blanquiazules dans l'élite du foot espagnol. Alors Benoît, je voulais te demander, est-ce que tu te souviens de cette épopée du Deportivo Alavés ? Est-ce qu'au regard de ce qu'on a pu dire sur la JOCR, il y a des similitudes ?
Oui, alors dans ce parcours notamment, bien sûr, on se souvient de la finale, 5-4 en finale de Coupe d'Europe, c'est mémorable. Et puis, pareil, la dramaturgie, le fait qu'à l'époque, il y ait encore les prolongations, le but en or, pareil, une règle qui a disparu ensuite. Donc, des inversions de score, etc. Donc, ça, c'est assez marquant. Et puis, tu le disais, l'histoire singulière, c'est... un club qui n'a pas de palmarès même à l'échelle nationale et puis même au niveau local qui est dans l'ombre de deux grands clubs avec la Real Sociedad, l'Athletic Bilbao, la difficulté en Espagne de se faire une place alors qu'il y a des grands clubs très puissants qui dominent le football espagnol à l'image bien sûr du Real Madrid et du FC Barcelone ou encore de l'Atlético Madrid à cette époque-là de Valence, de La Corogne, voilà, donc des clubs qui trustent vraiment le haut du panier, donc d'avoir effectivement ce club avec des joueurs méconnus, un peu revanchards qui émergent. C'est assez singulier.
Ouais, puis j'ai parlé brièvement de l'entraîneur, hein, Manet, qui était un entraîneur qui avait déjà de l'expérience de la bouteille au moment de ce parcours européen, qui avait entraîné beaucoup de clubs en deuxième division, qui avait notamment permis dans les années 90 à Leida de monter, de connaître brièvement la première division espagnole. Dans l'assemblage de ces joueurs, quelque part, il y a un peu aussi... on pourrait dire un peu du guirou là-dedans, c'est-à-dire des joueurs qui n'ont pas eu leur chance dans des grands clubs ou qui viennent de D2, mais qui ont envie de montrer, de mouiller le maillot. On retrouve un peu là cette marque de fabrique.
Oui, encore une fois, à cette époque-là où encore ça comptait beaucoup l'œil pour recruter, savoir trouver des joueurs qui vont être capables, qui ont été peut-être un peu laissés de côté alors qu'ils ont du potentiel. Ça, c'est effectivement un peu une marque de fabrique à l'époque de la GIA de Giroud et de Daniel Roland, qui était le formateur, de trouver les profils, avoir l'œil, sentir les coups, sans avoir beaucoup de moyens pour recruter, arriver à former une équipe compétitive, effectivement, avec des joueurs un peu oubliés.
Pour conclure, à la suite de cette épopée, l'attaquant Ravi Moreno et l'arrière-droit roumain Cosmin Contra signeront au Milan AC. Alors malheureusement, l'un comme l'autre, ils ne connaîtront pas au Milan AC la même réussite qu'ils avaient sous le maillot d'Alavés. Le défenseur Oscar Téliez, lui, il a même eu droit à la sélection espagnole. Donc, comme quoi le parcours européen a permis à des joueurs de briller. Et pour me documenter et construire cette chronique sur ce club d'Alavés, aujourd'hui en 2024, ces joueurs-là sont encore régulièrement sollicités par la presse espagnole. Et évidemment, on les interroge toujours. Je pense à l'attaquant Ravi Moreno. Quand il donne des interviews, c'est pour parler de l'année, la saison 2000-2001. Donc en fait, ça marque une carrière, quoi.
Oui, c'est l'exploit d'une vie, l'exploit d'une carrière, effectivement. Et puis c'est toujours ces parcours aussi de coupe, hein. On l'a dit. Alors pour Guignon, c'est à travers la coupe. Pour la GIA, pas seulement, mais la coupe a été vraiment un élément fort du palmarès et puis de la notoriété de la GIA. Et là, c'est pareil. À la VES, c'est via une coupe, donc c'est une campagne. C'est sur une campagne connaître des aventures avec des scores, des matchs à élimination directe, des prolongations, des tirs au but, des divisions d'écart. Et c'est ce qui forge les parcours.
Oui, et puis dans le cadre de la Coupe UEFA, ancienne mouture, des déplacements en plus, parfois qui étaient quand même assez improbables, où tu démarres au mois de septembre en Turquie, puis tu vas en Norvège, en Italie. Enfin, on faisait les quatre coins de l'Europe et dans des clubs qui, à l'époque, si on parle du championnat de Turquie ou de Norvège, avaient aussi les moyens de se défendre, en tout cas chèrement, et quitte à faire des beaux parcours européens. La saison d'avant, c'est Galatasaray qui remporte la Coupe UEFA.
Oui, c'est aussi à une époque, là, c'est le début des années 2000, donc. Le foot, bon, l'arrêt Bosman, c'est milieu des années 90, donc il n'y a pas encore un brassage aussi grand des joueurs à travers le continent, et donc il y a plus d'identité marquée de clubs nationaux qui les champions nationaux sont plus compétitifs sur la scène européenne et vont pouvoir faire effectivement, vont être dur à battre au fil de la compétition.
Tu es toujours sur le 99.5 Radio Campus Tour et tu écoutes Sigalco United, la mensuelle de football, d'histoire, de culture, d'épopées et de paillettes. Pour parler d'épopée, je suis avec Richard Trivino. Pour celles et ceux qui ne suivent pas ou peu le foot ou qui n'étaient pas nés en l'an 2000, Richard, je vais faire une rapide présentation. Donc, tu as été gardien de but professionnel à Guignon, et ça sera l'objet de l'interview d'aujourd'hui, mais aussi au FC Metz, à Boulogne-sur-Mer et à Créteil-Lusitanos. Tu as dans les jambes et dans les gants plus de 300 matchs de Ligue 2, ce qui est énorme. Ta carrière au niveau professionnel démarre en 1996 et s'achève au niveau professionnel en 2011. Tout d'abord, avant de passer à la suite, que fais-tu aujourd'hui ?
Je suis toujours dans le foot, hein. Je suis directeur sportif du FC Guignon depuis maintenant 10 années. En fait, quand j'ai fini le monde pro, j'ai voulu connaître un petit peu le monde amateur que je connaissais pas du tout, hein. Donc du coup, je suis revenu dans la région. J'ai signé dans un petit club à Digoin avec Philippe Correa en R1. Et tout de suite, je suis vite revenu à Guignon où on avait un petit projet avec Philippe qui était coach de faire remonter, et puis Eric Boniface à l'époque qui était aussi la Coupe de la Ligue, faire remonter le club en N3. On est monté dès la première année, j'ai continué à jouer un petit peu et puis après je suis resté au club en tant que directeur sportif et ça fait maintenant 10 saisons. Et à côté de ça, j'étais gérant d'une salle de sport pendant 10 ans aussi et maintenant je suis en Espagne sur Barcelone avec d'autres projets personnels, mais je suis toujours responsable du recrutement au FC Guignon.
Alors évidemment, on va parler du FC Guignon et de ton parcours au sein de ce club. Déjà, je crois qu'entre le FC Guignon et ta famille, c'est une histoire d'amour, car tu n'es pas le premier dans ta famille à avoir porté les couleurs du club, est-ce exact ?
Oula, oui, c'est une famille Trivino. Alors, il y a eu pas mal de familles au FC Guignon, hein. C'était un club familial à la base, mais c'est vrai que les Trivino, j'ai eu mon père qui était gardien de but, j'ai eu Antoine qui était attaquant et qui doit toujours être le meilleur buteur du club, mais il fait partie des meilleurs buteurs de Ligue 2, il a quasiment 100 buts, je crois. Après, il y a eu David aussi qui a joué à l'époque de la Ligue 1, et j'ai mon petit cousin Maxence qui a tapoté un peu dans le ballon. Mais c'est vrai que la famille Trivino et le FC Guignon, c'est une longue histoire d'amour.
Alors pour l'émission d'aujourd'hui, nous sommes donc en l'an 2000, plus précisément lors de la saison 1999-2000. À ce moment-là, c'est quoi le FC Guignon dans le paysage footballistique français, plus précisément dans ce qu'on appelle alors la deuxième division? Vous n'êtes pas vraiment n'importe qui.
Non, c'est vrai qu'on est quand même un club historique de la Ligue 2 à l'époque, que je crois, alors que je suis pas du tout chiffre, même les chiffres de ma carrière, tu m'as rappelé le nombre de matchs que j'avais, je suis incapable de dire le nombre de matchs, je suis pas du tout chiffre. Mais c'est vrai que le FC Guignon, c'était l'un des plus anciens clubs de Ligue 2. Et donc du coup, on faisait des saisons correctes, et cette saison-là, en plus, on faisait une saison plus que correcte en Ligue 2. On était sur le haut de tableau. Donc c'est vrai que le FC Guignon et la Ligue 2, on a été liés de très longues années. Ouais.
Alors cette saison-là, votre entraîneur, c'est Alex Dupont, une personne qui va marquer de son empreinte la vie du club. En début de saison, quels sont vos objectifs? Et toi, personnellement, t'es pas titulaire en championnat, t'es la doublure du regretté Philippe Schütt, c'est ça?
Oui, exactement. Oui, j'étais jeune, j'étais jeune, donc je sortais du centre de formation du FC Guignon, j'avais fait quelques matchs en Ligue 2, mais comme ça, en remplacement. Et le début de saison, alors là, c'est un peu des anecdotes, mais début de saison, on savait pas trop où on allait. Hein. Moi, je me rappelle, après le match, on a fait un match amical contre Louhan, on a même été au pénalty pour finir le match amical. Et j'avais surpris une conversation d'Alex Dupont qui avait avec Georges Léonard, qui disait « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette équipe-là » Et il n'était pas trop positif, Alex, en début de saison. Je pense que c'était un petit peu… Il ne savait pas trop où il allait. C'est lui qui a instauré un peu nos changements tactiques avec des joueurs, notamment comme Sylvain Distin, qui n'avait pas trop joué à ce niveau-là, le mélange de jeunes et d'anciens. Et du coup, ça a vite fait une bande de potes. Et puis la mayonnaise a très bien pris. Et puis arrivé ce qui devait pas arriver. Alors... ce qu'on n'avait pas pensé. Mais voilà, un petit peu début de saison, c'était l'objectif. C'était pas de... En tout cas, pour le coach, ça c'est une certitude. C'était pas jouer le haut de tableau et pas gagner la Coupe de la Ligue.
Alors justement, on va en parler de la Coupe de la Ligue. Alors c'est une compétition qui n'existe plus, qui réunissait dans une coupe à élimination directe les seuls clubs professionnels, avec comme carotte une place européenne pour le vainqueur et le prestige d'un titre national. Pour vous, à partir de quand vous en faites une possibilité de victoire? Alors, j'ai regardé le parcours. Est-ce que c'est après la victoire en quart de finale contre Strasbourg, qui était une équipe de première division? Ou bien, est-ce début février, avant ce match contre Strasbourg? Parce qu'il y a aussi, en Coupe de France, vous éliminez l'Olympique de Marseille par une victoire historique 4-3 au Vélodrome. À partir de quand ça commence à trotter dans votre tête?
C'est vrai que cette année-là, moi, pour le petit gamin que j'étais, déjà, gagner 4-3 au Vélodrome, alors je suis passé par tous les sentiments, hein, parce que j'étais un jeune qui jouait en CFA de l'époque et qui vend la N3 maintenant. Donc c'est vrai que cette année-là, en plus, il y avait Marseille où on a fait quelque chose d'exceptionnel. Mais réellement, très honnêtement, après Strasbourg, je sais pas, il y avait quelque chose. Je me rappelle d'une phrase du préparateur physique qui a dit « Si on gagne la Coupe de la Ligue, les gars, je me rase les cheveux ». Bon, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Mais, et du coup, c'est vrai qu'après Strasbourg, et je dirais même avant Strasbourg, avant le match de Strasbourg, on s'est mis à y croire. Parce qu'on s'est dit « Avant Strasbourg, il n'y a plus beaucoup de matchs pour aller au bout ». On a été sur une bonne série en championnat, ça jouait bien. Et ce qu'on a montré en Coupe de la Ligue, c'est exactement la façon dont on jouait en championnat. Donc je dirais même avant Strasbourg, on se disait « Waouh, c'est possible ». Et après, il s'est passé ce qui s'est passé contre Strasbourg, et puis après, c'est enchaîné. Mais je pense que même avant le match contre Strasbourg, déjà, les mots d'Amara, c'était « Et si on allait au bout, pourquoi pas ?» Donc voilà, ouais.
Alors, il y a une chose singulière dans votre parcours. Vous jouez en demi-finale contre le Red Star, qui est pensionnaire à l'époque de National, le troisième échelon du football français. On en parle de petits poussés dans les coupes. Et dans cette demi-finale, joué à Saint-Denis, en fait, c'était vous le grand et c'est le Red Star qui faisait figure de petit poussé. Comment vous avez vécu cette sorte d'inversement de valeur le temps de cette rencontre?
Ouais, en plus, tu as totalement raison. Je crois que c'est le pire match de notre saison. Je pense que c'est notre plus mauvais match de la saison, championnat et coupe compris. On est passé dans un trou de souris. Alors après, le Ressart aussi avait une équipe, une grosse équipe, hein, avec Richard Akana, Felaï, ils avaient des noms en fait qui ont fait des carrières après. Et donc du coup, ou des anciens qui avaient déjà fait un peu. Donc c'était tout sauf une équipe surprise. Et ça ressemblait tout à un piège, quoi. On savait que ça allait être compliqué parce que, comme tu le dis, on était favori. C'est le seul match de la coupe où on était favori, parce que même à Niort, en première journée, c'était un match ouvert, équipe de même niveau, et bon, voilà. Mais c'est le premier et seul match et unique match où on était favori dans cette compétition, et ça a été très compliqué. On est passé par par une égalisation d'Amara qui a mis un but à la Amara. Je ne sais même pas comment il l'a mis, du genou, de la tête, du ventre, de je ne sais pas. C'est un but à la Amara. Et puis après, la série de pénalités interminables. Mais c'est vrai que ouais, ça a été le match sans modestie, voilà, en toute modestie, mais ça a été le match le plus compliqué, franchement, parce que fallait se mettre dans la tête du favori, et il y avait quand même une grosse équipe en face. Donc on savait qu'et en plus à la Courneuve et avec tout ce qui va avec, donc c'était un match très compliqué.
Et oui, cette demi-finale, pour revenir dessus, c'est un match qui est resté dans les annales, car il y a match nul au bout du temps réglementaire. Le match va au bout de la soirée, même au bout de la nuit, on pourrait dire. Il y a une séance de tir au but, et Jean-Marc Branger, le gardien du Red Star, et toi, vous êtes les grands protagonistes de cette fin de match. Est-ce que tu peux nous raconter ce que vous avez vécu l'un comme l'autre, parce que ça arrive quand même assez rarement dans la carrière d'un gardien?
Ouais, ça arrive très rarement. Alors c'est vrai qu'après, pour l'anecdote, toute la semaine, en fait, les joueurs avaient qu'une envie, c'est pas aller au pénalty, parce qu'ils savaient que Jean-Marc était très très bon. Mais ils en ont parlé toute la semaine, je crois. Et ils voulaient absolument pas aller au pénalty. Et du coup, ça a été au pénalty. Après, Jean-Marc, je l'ai connu parce que ça a été ma doublure à Guignon. Pour être très sincère, on n'a pas souvent parlé de cette séance de pénalty, parce que pour lui, c'est un très mauvais souvenir. Hein. Il s'arrête à la porte de la finale. Mais c'est vrai que c'était une séance interminable, inoubliable. Quand on est dedans, en fait, on n'a pas le niveau de stress que les gens qui sont à côté. Nous, voilà, c'est un penalty les uns après les autres. Mais c'est vrai que y a eu plein de choses différentes entre Johan sur un penalty, Johan Boudin, un penalty que j'arrête, il vient vers moi me sauter au cou, mais je dis non, mais Johan, c'est pas fini. Il tire, il loupe, alors que si marquait, c'était fini. Et après, il y a eu l'arrivée au penalty où je me souviens encore de quelque chose, c'est que je le répète souvent, mais quand Jean-Marc s'est annoncé, je ne savais pas du tout où tirer, mais je me suis dit, ouais, c'est un ancien, il va vouloir chercher compliqué, il va croiser. Mais je suis parti sur ce côté-là, vraiment pour ça. Et après, quand j'ai arrêté le pénalty, le ballon va très très loin, il va quasiment au milieu de terrain. Donc j'ai été chercher le ballon, et franchement, au fond de moi, je savais que c'était fini. Je savais que j'allais la mettre. J'en ai parlé avec David Andréani, avec quelqu'un, ils m'ont vu, je savais que c'était fini, je savais que j'allais la mettre. Et pendant tout le voyage retour, tout le temps que je ramène le ballon jusqu'au point de pénalty, j'ai regardé le côté où j'allais tirer. Parce que je me suis dit, mais ça c'est véridique, hein, c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, Jean-Marc Branger va dire, ouais, le gamin il me prend pour un bleu, il regarde ce côté, il va tirer de l'autre. Et en fait, j'ai regardé que le côté où j'allais tirer, alors ça aurait pu ne pas marcher. Et je me suis dit, parce que le gardien il va se dire, ouais, le gamin il me prend pour un bleu. Et c'est exactement ce qui s'est passé, il est parti à contre-pied. Et puis voilà. Mais ça c'est vraiment des anecdotes réelles et c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Mais très honnêtement, je sais pas pourquoi, mais je savais que c'était fini. Je voyais pas, je savais que j'allais pas la louper. Pourtant, j'étais pas réputé pour avoir une super technique au pied à cette époque. Moi, je suis de la génération où j'avais le droit, en 17 ans, en jeune, j'avais le droit de la reprendre à la main. Donc, j'avais pas un super jeu au pied à cette époque-là. Mais je sais pas, au fond de moi, je savais que c'était fini. Et puis voilà, c'est fini.
Et donc, vous vous qualifiez pour la finale, qui se joue contre le Paris Saint-Germain le 22 avril 2000. Quelques jours plus tôt, Calais a éliminé Bordeaux en demi-finale de la Coupe de France. Est-ce que vous y pensez ? Est-ce que ça compte dans votre préparation de la finale, le fait que cette année-là, bonne année pour les petits poussés dans les Coupes nationales qui éliminent les gros ?
Alors, ça a compté, je vais dire pourquoi. Ça a compté parce qu'en fait, on a parlé que de Calais, on n'a pas parlé de nous. Et en fait, ça a compté parce que Paris-Guignon, le match est plié, c'est Paris qui est champion. Et maintenant, Calais, voir s'ils vont gagner la Coupe de France. Et en fait, c'est exactement, hein, c'est réel, hein, c'est pas, je fais pas le vilain, on n'était pas le vilain petit canard qu'on parlait. Mais c'est exactement ça, en fait. Les médias nous ont laissé tranquilles. Ils ont parlé que de Calais. Et l'histoire, en fait, PSG-Guignon, c'était réglé. La preuve, hein, déjà, PSG était déjà invité à Téléfoot, était déjà invité à Stade 2, c'était réglé. Hein, c'était réglé. La Coupe de la Ligue à l'époque. C'était pas la Coupe de la Ligue, c'était la Coupe du PSG. Nous, on l'a vu quand on a gagné l'an dernier, j'étais avec la Coupe de la Ligue avec David Franzel dans la voiture et il y a deux, trois taxis qui se sont arrêtés, qui se sont dit, ah, c'est la Coupe du PSG. Non, non, les gars, c'est la Coupe de la Ligue, c'est pas la Coupe du PSG. Et en fait, avant la finale, pour eux, pour la plupart des médias qui sont, les grands médias qui sont la plupart parisiens, c'était réglé, ce match-là était réglé. Donc du coup, on nous a laissé tranquille, on a parlé que de Calais. Et c'est pour ça que ce match de Calais, moi je remercie grandement Calais, et j'aurais préféré qu'il gagne, sincèrement, mais parce qu'ils nous ont, en fait, les médias nous ont laissé dans une tranquillité, dans une sérénité totale. On nous a pas, il y a vraiment que la presse locale qui nous a un peu sollicité, mais la presse nationale, c'était réglé. PSG avait gagné la Coupe de la Ligue.
Alors la finale, on va spoiler tout de suite, hein, vous la remportez 2-0 contre le Paris Saint-Germain. Sur le papier, quand on regarde à Guignon, outre toi dans les buts, donc il y a Sylvain Distin, Johan Bouzin, Nicolas Essetenzi, Marcelo Trapasso, Didier Neumann, Ouamara Traoré, des joueurs qui ont connu ou qui auront une belle carrière en Ligue 1, voire même en Première Ligue pour Sylvain Distin. Au final, c'est la consécration d'une belle bande de copains qui avait aussi du talent à revendre, car en fait, franchement, sur le papier, vous avez quand même une chouette équipe.
Ouais, franchement, c'est ça. Je compare toujours à l'époque. Alors après, nous, la différence, c'est qu'on a fait, alors quelques joueurs ont tenté la Ligue 1, Nico, Senzi, moi un petit peu rapidement, il y en a quelques-uns, mais mis à part Sylvain Distin, dire, la plupart, on est resté, on a fait des grosses carrières de Ligue 2. Et du coup, la différence avec, par exemple, à Leicester en Angleterre, qui avait été champion, et il y a quand même plein d'individualités qui ont fait des grosses carrières, nous, on a fait... En toute modestie, on a fait des très belles carrières, mais des carrières modestes, Ligue 2, quelques-uns en Ligue 1, mis à part Sylvain, qui est, je crois, encore le joueur français qui a le plus de matchs en championnat d'Angleterre. Mais en fait, ce qui a fait notre force, c'est, ouais, comme tu l'as dit, c'est on avait une équipe de ouf. On avait une équipe de ouf, en fait. Je pense qu'on prenait pas conscience de, bah, qu'on était en finale contre le PSG. Et c'était ça notre force. Notre force, c'était ce clan, c'était Amara Traoré. C'est voilà. Quand vous avez un mec comme Amara dans le vestiaire, il peut pas vous arriver grand chose. Et ouais, notre grosse force, c'est ça. C'est qu'on était une équipe avec bien sûr quelques individualités, mais la grosse force, c'était l'équipe. Et en plus, ce match-là, comme je te disais tout à l'heure, on a fait un match. Tout le monde dit ouais, quel match du FC Guignon, mais on a fait un match. Comme on faisait tous les week-ends. Hein. Cette année-là, on doit même monter en première division si ça se passe bien. Hein.
Alors, est-ce que après cette victoire, vous avez pris la mesure de ce que ça représentait pour une ville comme Guignon ? On va repréciser, hein. C'est une ville de Saône-et-Loire. Il y a moins de 10 000 habitants à Guignon. Vous êtes dans le bassin industriel de la région de Montceau-les-Mines-le-Creusot. Est-ce que vous prenez la mesure de ce que ça représente pour les gens de cette région ? Et est-ce qu'après la victoire aussi, est-ce que vous avez fait une belle fête ?
Ouais, bah bien sûr. Alors moi, qui est en plus le petit, qui était le seul véritable Guignonnais, hein, moi je m'amuse à dire que je suis né sous la tribune du stade Jean Laville. Donc moi j'ai pris l'ampleur. Mais c'est vrai que nous déjà cette finale, pour avant d'arriver à la fin, cette finale en fait on l'a jouée, mais pas pour la jouer. Je me rappelle avant le match à Mara, et on s'est réunis en disant les gars, quand on va gagner la finale, comment on partage notre prime. Amara n'a pas dit si on la gagne. Il avait dit quand on va la gagner. Comment on partage les primes, les gars ? Est-ce qu'on partage avec tout le groupe ? Et ça, le vote, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, le vote a été fait à la collation 3 heures avant le match. Donc en fait, on était, Amara nous avait, bah, je veux dire, Amara bouté. Et à la limite, on aurait été déçus de ne pas la gagner parce qu'on était, bah, dans notre tête, on allait la chercher, quoi. On allait la chercher. Donc on était, je ne vais pas dire sûr de nous, parce que c'était facile, après, on joue quand même le PSG. Mais donc après, c'est fait que la finale. Alors bien sûr qu'on était heureux. Mais pour nous, c'était pas une surprise que l'on savait qu'on pouvait le faire. Après, oui, c'est vrai que on ne prend pas l'ampleur. Quand vous êtes joueur, vous ne prenez pas tout de suite l'ampleur de ce que ça fait, parce que du coup, on est sur le terrain, on fait un match de foot. Alors c'est une finale de Coupe de la Ligue contre le PSG où personne ne nous donnait gagnant. Je pense qu'il n'y avait que nous qui nous donnait gagnant, les 20 dans le staff et puis les 7000 guignonnais. Je pense qu'il y avait 20 000 personnes qui croyaient en nous. Le reste, je veux dire, c'est des fous. Ils vont jamais battre le PSG. Donc, on n'a pas été surpris parce qu'on savait qu'on pouvait le faire. Mais après, bon, ben, après, on a pris la dimension. Moi, qui l'enfant du pays, quand j'ai vu, les petites rues de Guignon remplies de monde, c'était exceptionnel. Quand on est rentré le mardi, parce que le lundi, il y avait les Oscars du foot sur Canal. Donc, quand on est rentré le mardi, le stade Jean Laville était plein, nous on allait faire un petit footing, parce qu'Alex, coupe la Ligue ou pas, il y avait un match à préparer samedi d'après, donc on allait faire un petit décrassage et on est revenu, il y avait 12 000 personnes. Donc là vous prenez conscience que vous avez fait quelque chose d'énorme, battre le PSG, et puis et c'est vrai qu'après, on s'aperçoit après, parce que ça reste des années après, comme là tu es en train de faire, ça reste, et ce qui est top, moi, le petit guignonnais du fin fond de la France, on se rappellera toujours du FC Guignon. Et ça, ça a pas de valeur. Ça a pas de valeur. Et oui, on a fait la fête. Et c'est des choses où on a toujours un groupe WhatsApp en commun où on est resté une famille et c'est un truc qu'on va emmener avec nous jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout, cette histoire-là.
Et du coup, vous placez Guenon sur un peu mieux encore sur la carte du football français. Vous la placez même du coup sur la carte du football européen, parce que l'aventure va se poursuivre au mois d'août 2000 par un premier tour que vous jouez contre un club grec, l'Iraklis Salonique. Vous êtes éliminé dès le premier tour, mais est-ce que t'en es, toi, de ces deux matchs contre les Grecs de l'Iraklis?
Ouais, je me rappelle, à l'aller, on fait 0-0 à Guenon, où franchement, ils nous avaient un peu secoué, parce qu'à l'époque, alors ça n'a pas parlé aux jeunes, hein, mais ils avaient, j'ai plus les noms en tête, mais ils avaient plusieurs noms connus. Ils avaient Reinke, qui était un ancien gardien, qui a joué après la Ligue des Champions. Ils avaient le Grec, qui était défenseur central à Arsenal, qui était tout jeune.
Tavlaridis.
Ouais, Tavlaridis, qui était tout jeune, qui jouait, et ils avaient un international espagnol qui a une trentaine de matchs internationaux, alors j'ai plus le nom en tête. Ils avaient Constantinou devant, qui faisait 2 mètres cubes, qui était international chypriote. Donc ouais, non, ils avaient quand même...
Et l'espagnol, c'était Alberto Belsué.
Voilà, exactement, bien joué. Alberto Belsué, qui est international espagnol. Donc ils avaient aussi devant... l'attaquant qui a joué au PSG.
Ah, James Deba. Le Libérien.
C'est ça. James Deba. Donc, ils avaient une équipe quand même correcte. Hein. Donc, à l'aller, on fait 0-0 chez nous, mais bon, on peut le perdre. Par contre, là-bas, on perd 1-0. Bienvenue en grec, arbitre roumain, j'en dirai pas plus. Mais voilà, on était le petit. Et franchement, ce match-là, on doit passer. Et puis après, ils sont éliminés par le Kaiserslautern de Djorkaeff. Le but extérieur comptait double. Et je crois que c'était fait éliminer comme ça contre Kaiserslautern, qui à l'époque était une grosse équipe d'Allemagne. Et il y avait Yuri Djorkaeff d'ailleurs.
Oui, et d'ailleurs, pour faire le parallèle, tu vois, continuer sur les épopées, cette année-là, Kaiserslautern, ils se font éliminer en deux. Ils vont jusqu'en demi-finale. Et c'est justement le Deportivo Alavés qui les élimine en demi-finale de la Coupe UEFA.
Et ils sont passés difficilement contre Iraklis. Il y a eu 3-2 et 2-1, je crois, de mémoire. Alors, tu auras peut-être les résultats. Et du coup, ils étaient passés difficilement contre Kaiserslautern. Et nous, le petit Guenon, en effet, 0-0 et 1-0 avec un but de Constantinou. Où il avait tout mis dans le but, le ballon, moi, tout le stade et tout. Mais donc c'est vrai qu'on aurait dû passer. Alors après, peut-être qu'on aurait pris 6 contre Kaiserslautern, un match ou un autre. Mais en tout cas, le seul regret qu'on pourrait avoir, s'il y a un regret, c'est d'être passé un tour en Coupe de l'UEFA. C'est passé très vite. Mais bon, c'est toujours une fierté immense. Hein, comme je t'ai dit, pour le petit forgeron, le petit guignonnet, si on m'avait dit au début, quand je signais ma première licence, que j'allais gagner la Coupe de la Ligue et jouer la Coupe d'Europe avec le FC Guenon, je pense que j'aurais dit ouais, c'est bon, tu te fous de ma gueule. Et ben non. Donc du coup, c'est ça. On a tous une fierté immense d'avoir, d'avoir fait connaître le FC Guenon à tout le monde. Et depuis ce jour-là, je pense que les supporters parisiens savent exactement où se trouve le FC Guenon sur la carte. Ouais.
Alors on fait un bond dans le temps, 25 ans après, Guenon bataille en National 3, le club a perdu le statut pro. Toi, donc, on a bien compris, tu restes attaché à ce club. Et est-ce que les paroles, causeries et conseils d'Alex Dupont restent encore une source d'inspiration pour toi ou d'autres anciens du club?
Après, Alex, comme tous les entraîneurs comme quasiment tous les entraîneurs que j'ai croisés, on essaye, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, de prendre le meilleur, en tout cas, ce qu'on estime être le meilleur. Hein, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ou essayer ce qui rentre plus dans tes valeurs, j'essaye de choper. Alors, on prend des choses d'Alex Dupont, on prend des choses de Roland Gansard, on prend des choses même des anciens, hein, d'Amara. Alors, c'est vrai que je suis plus inspiré des façons de faire d'Amara Traoré, de Jean Acedo, des gens comme ça, qui c'est ce genre de valeur, non pas que les autres le sont pas, mais quand vous êtes du FC Guenon et vous êtes de la terre, vous inspirez plus de gens comme ça. Donc moi, c'est vrai que mais on va dire mes mentors, c'est plus Amara Traoré et Jean Acedo, plus que les coachs que j'ai croisés. Et pourtant, j'ai croisé des super coachs. Et le nom qui me vient à l'esprit comme ça, c'est Guy David, notamment. Donc du coup, voilà, j'essaie de prendre du meilleur de tout le monde. Et bien sûr que ces moments-là, on s'en inspire. Et on sait que le truc qu'on... En tout cas, le résumé de cette histoire, c'est que quand on est une bande de potes, on peut soulever des montagnes. Et c'était vraiment ça, quoi. Je pense que cette année-là, il ne pouvait pas nous arriver grand-chose. Hein. Et encore, on aurait pu faire une belle histoire en Coupe de France. On se fait éliminer à Nantes au pénalty. On fait 0-0 là-bas. Et c'est Nantes qui gagne la Coupe de France.
Merci beaucoup, Richard Trivino, pour les montagnes soulevées avec le FC Guenon.
Pas de souci.
Merci à Richard Trivino pour cette interview. Les meilleures choses ont une fin et c'est la fin de l'épopée et c'est la fin de cette émission Sigalco United pour ce mois-ci. Vous retrouvez l'émission en podcast sur notre site www.radiocampustour.com et nous on se dit au mois prochain et d'ici là continuez de rester branchés sur le 99.5. Ciao ciao.